Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de l'émission, aujourd'hui, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henneton répondra à la question « Qu'est-ce qu'un droit à l'oubli appliqué changerait au moteur de recherche ?» Thibaut, que l'on retrouvera en toute fin d'émission pour son complément d'enquête, le son. Ce sera écran total. Quant à notre invité du jour, Olivier Chopin, Snowden, un an après, pourquoi l'Amérique nous écoute-t-elle ? Il y a presque un an, jour pour jour, c'était le 6 juin 2013, un jeune informaticien du nom de Edward Snowden rendait public par l'intermédiaire, ou commençait à rendre public, par l'intermédiaire de journalistes du Guardian et du Washington Post, des informations classées top secret provenant de la NSA, la National Security Agency américaine. Petit à petit, on a découvert les différents programmes mis en place par les États-Unis et leur premier allié, la Grande-Bretagne, pour récolter des données de communication provenant du monde entier. Prism, qui permet au FBI et à la NSA, grâce à des portes dérobées dans des logiciels de certaines grandes entreprises américaines, d'espionner les internautes qui les utilisent. Tempora, qui permet aux Britanniques d'aspirer les données qui passent dans leur câble transatlantique, données immédiatement transmises à la NSA. Ou K-Score, qui permet de puiser plus particulièrement dans les mails. L'énumération des différents programmes et du type de données recueillies prendrait à elle seule l'émission entière, où l'on apprendrait que les Américains surveillent les communications de leurs adversaires, la Chine en premier lieu, mais pas seulement, mais que les Américains espionnent surtout leurs alliés, les pays d'Amérique latine, d'Asie et beaucoup les pays d'Europe, et de manière extrêmement intrusive. On se souvient bien sûr des téléphones portables de la chancelière allemande Angela Merkel et de la présidente brésilienne Dilma Rousseff placée sur écoute, et ça n'est qu'un tout petit bout de tout ce qu'on a appris. Alors difficile de résumer tout cela, difficile aussi de décrire très précisément les processus techniques qui permettent à ce système d'exister. Depuis un an, on a très souvent parlé dans Place de la Toile de l'affaire Snowden. On a essayé d'en prendre la mesure et d'examiner ses conséquences quant à l'avenir de l'Internet. Mais une question est restée de côté pendant tout ce temps. Pourquoi les Américains font-ils cela ? À quelle logique cela répond-il ? Bonsoir, Olivier Chopin.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po et à l'EHESS. Vous êtes spécialiste au départ de la raison d'État, puis du renseignement, et en particulier du renseignement américain. Et vous venez de publier chez Icari Édition, un petit livre intitulé « Pourquoi l'Amérique nous espionne ?». Petit livre dans lequel vous montrez que l'affaire Snowden s'inscrit dans une histoire du renseignement américain, une histoire longue du renseignement américain, dans un rapport aussi aux technologies, à Internet, et qu'il y a là autre chose qu'une folie à laquelle on pourrait conclure après cette année de révélation. Première question qui n'est pas, à laquelle vous ne répondez pas directement dans votre livre, Olivier Chopin, et que je ne cesse de me poser depuis un an. Question peut-être naïve, je ne sais pas, mais vous me direz. Pourquoi les Américains ont-ils reconnu aussi vite l'existence de tous ces programmes, alors que quand on y réfléchit, la provenance des sources est unique ? Ce sont les documents d'Edward Snowden, par ailleurs, dont on a vu qu'une toute petite partie, hein, ils étaient quelques dizaines de milliers, disait-on. Maintenant, on dit des centaines de milliers de pages. Et pourquoi a-t-on très peu cherché, ou les Américains ont-ils très peu cherché à discréditer cette unique source, à discréditer, je ne sais pas, son travail, ses positions, et pourquoi pas à partir de parfois simples quelques slides décrivant très très grossièrement un processus technique, eh bien on a vu une série d'aveux provenant de toutes les agences de renseignement américaines, et particulièrement la NSA. Est-ce que vous avez une hypothèse là-dessus, Olivier Chopin ?
Alors on peut faire une hypothèse, mais elle sera assez multiple. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait une raison principale ou unique, mais peut-être un faisceau de raisons sur cette attitude et effectivement cette absence de décrédibilisation ou de déni vis-à-vis des technologies. Bon, la première chose, c'est que cette affaire Snowden arrive après l'affaire WikiLeaks et les révélations de Julian Assange. Et il y a déjà quand même un passif, on est dans un contexte un peu particulier du rapport entre le secret et la transparence, qui font que les États-Unis auraient énormément de mal, de toute façon le gouvernement américain, à avoir une attitude d'obstruction ou de tentative de couvrir une affaire de ce genre. Je crois qu'ils ont compris avec les questions de WikiLeaks, enfin ils ont compris, ils l'ont pensé comme ça, que plus on essaie de couvrir des choses qui de toute façon finiront par être publiées, plus on aggrave la situation. Mmh. On lance les journalistes internationaux sur ces affaires, alors qu'à la rigueur, tant que Greenwald et le Washington Post vont être alimentés par les révélations de Snowden, la presse mondiale est en attente des révélations de Snowden plutôt que d'aller elle-même creuser un certain nombre de choses. Alors c'est pas forcément vrai, en Suède par exemple il y a eu des investigations autonomes, au Royaume-Uni un petit peu aussi, mais bon, disons que finalement c'était assez malin de laisser un ou deux points de passage de l'information avant que tout le monde se mette à creuser, soit vis-à-vis de ses propres gouvernements, soit vis-à-vis des États-Unis, les moyens d'interception. L'autre chose, c'est que bon, on est quand même en train de parler de Guardian US, de Washington Post. Il y a quand même un respect du travail de la presse et un rapport avec la presse aux États-Unis qui font qu'il est quand même très difficile de manipuler les grands médias et de leur interdire l'accès à certaines informations. Donc là, clairement, Barack Obama, qui est dans une logique d'exemplarité politique depuis son premier mandat, qui prétend être un président un peu plus moral que les autres, avec tous les problèmes que ça pose, ne se sentait pas du tout d'afficher une attitude d'obstruction telle que Dick Cheney avait pu l'avoir à l'époque d'autres affaires sur la CIA, l'uranium irakien, bien etc. Sûr, ouais. Et donc, il y avait sans doute aussi une consigne politique consistant à dire qu'on essayait de limiter la casse, mais pas forcément jusqu'à l'obstruction du travail de la presse. Enfin, pour autant qu'on le sache, les quelques réactions qui ont eu lieu de la part des hautes personnalités de la communauté du renseignement, ils ont quand même été absolument effarés de ce que Snowden avait pris, de ce qu'il prétendait posséder sur ses disques durs et de ce qu'il était prêt à révéler. Et donc, il y avait sans doute aussi la crainte que toute attitude agressive vis-à-vis de Snowden ou des journalistes risquait de déclencher un flot d'informations, un peu ce qu'avait fait Julian Assange à la fin, c'est-à-dire de tout lâcher d'un coup sans discrimination. Et là, ils auraient été quand même manifestement extrêmement gênés.
Pourquoi préférer un compte-gouttes à feuilletonner aussi, parce que ça sert aussi les journaux, à un flot dans lequel peut-être des choses importantes auraient été noyées?
Alors noyé pour les journalistes, pour le commun des mortels, mais peut-être pas noyé pour les Indiens ou les Chinois ou les Iraniens. L'argument qui a été posé par les responsables du renseignement britannique et par les responsables de la NSA, Case Alexander, l'ancien directeur de la NSA, c'était pour ceux qui ne sont pas initiés, les informations de Snowden qui sont présentées peuvent avoir une dimension un peu sensationnaliste politique. Pour nos ennemis, nos adversaires, ceux qui sont susceptibles, y compris les terroristes qui ne sont pas du tout sous-technologisés, contrairement à ce qu'on imagine, ou rétifs à la technologie, ça peut leur livrer énormément d'informations sur ce que nous faisons et comment nous le faisons. Et grosso modo, c'est quand même un risque d'affaiblissement de nos procédures ou de nos structures qui est extrêmement fort. Donc, sachant que la capacité de renseignement dépend de l'avance technologique et du fait que cette avance, les gens peuvent la connaître. On sait que les Américains sont en avance sur les autres, mais on ne peut pas la mesurer. Si même des pays partenaires comme la France, l'Italie pouvaient mesurer l'état d'avancement des technologies américaines, ça les entrave et ça leur pose des problèmes. Donc, je crois que finalement, ils ont géré cette crise avec beaucoup de sang-froid et notamment l'absence d'obstruction correspond à la fois à des principes juridiques et philosophiques et à une forme de réalité. C'était en fait une façon de faire du damage control que de ne pas entrer dans un jeu d'opposition pure.
Alors moi j'avais une hypothèse, mais complètement complotiste, qui était de considérer que tout ça au fond les servait. Dans un moment où la puissance américaine est menacée, notamment du point de vue économique, et même du point de vue politique, où s'élève un gros pôle en Asie, une Europe bon, compliquée, mais enfin, qui est quand même un acteur important, tout à coup, tout ce programme, toute la révélation de ce programme ne faisait qu'affirmer que dans un champ, au moins, les Américains étaient largement au-dessus des autres, qui était celui des écoutes, et qu'ils pouvaient agir, écouter n'importe où dans le monde, y compris au fin fond de la Chine, y compris en Inde, jusqu'au portable de la chancelière allemande ou de la présidente russe, et que sur ce champ-là, au moins, les Américains étaient hyper puissants. Laisser dire ça, laisser raconter tout ça, c'était aussi une manière en creux de montrer leur puissance.
Oui, alors, Bon, on peut imaginer que certains s'en trouvent pas si malheureux que ça d'avoir ces révélations. Ce que vous dites, enfin, ce raisonnement un peu conspiratoire.
J'ai annoncé comme ça.
Hein. Oui, non, mais tout à fait. Et tout à fait typique, si vous voulez, d'une de ces composantes, hein, de ce discours sur finalement ça leur sert à quelque chose où ils ont peut-être laissé faire ou favorisé, etc. C'est qu'on est à la fois dans un fantasme d'impuissance et dans un fantasme de toute puissance, systématiquement. Fantasme de la toute puissance, leurs moyens d'interception et de contrôle de l'information seraient tels que, effectivement, voilà, tout le monde peut être écouté jusqu'au chef d'État étranger. Et en même temps, fantasme d'impuissance au premier opérateur système qui décide de faire des défections. Il n'y a plus moyen de l'empêcher de dire ce qu'il dit et il se retrouve protégé par la Russie. Et à la fin, en fait, on ne contrôle rien du tout puisque le moindre transfuge ou aujourd'hui lanceur d'alerte est capable de menacer l'existence même de la sécurité. Donc, je crois que l'interprétation un peu comme ça en termes de est-ce que ça ne leur profite pas permet de résoudre cette équation. On nous dit qu'ils sont tout puissants et en même temps ils sont manifestement impuissants à contrôler leur propre information. Ça permet de résoudre un peu cette apparente contradiction, mais en fait je pense que c'est quand même très difficile d'imaginer qu'ils pointent le regard à ce point vers leur propre système et vers des faiblesses ou des failles de leur propre système malgré tout. Comme j'essaie de le montrer un peu dans le bouquin, le principal avantage dont disposait la NSA jusqu'à une période récente et qui était quand même une valeur très importante pour eux, c'était que personne ne s'occupait d'elle. Il y a eu évidemment des livres, des quelques enquêtes journalistiques ou judiciaires sur la NSA, mais comparé à la CIA, au FBI, à MI6 ou à la DGSE en France, la NSA n'était pas un service secret très très connu.
Alors pourquoi ? Justement, rentrons dans le cœur de votre livre. Alors j'avais choisi de, puisque vous donnez une série de réponses, 7 réponses à la raison à la question pourquoi l'Amérique nous écoute-t-elle. Celle-là n'est pas la première, mais c'est pas grave, commençons par celle-ci puisque vous l'avez évoquée. Alors pourquoi connaissait-on si peu l'existence de la NSA jusque-là ? On la connaissait quand même un peu, parce que par ceux qui suivent l'actualité, celle du renseignement, et même d'ailleurs les films, il y a quelques représentations du ennemi d'État, par exemple, fait mention d'une sorte de folie de la NSA, alors que c'est ennemi d'État, c'est la fin des années 90.
Oui, tout à fait.
Pourquoi connaissait-on si peu la NSA ? Olivier Chapin.
Alors bon, d'abord, elle est restée secrète beaucoup plus longtemps que les autres agences américaines, et notamment que la CIA. La NSA fait l'objet d'un secret d'État partagé par les Anglais et les Américains jusqu'au milieu des années 70, où là, il n'y a vraiment quasiment rien qui filtre, y compris au Congrès, au Parlement britannique, sur l'existence de cette agence.
Et qui est née quand ?
Elle est née en 52. Truman la fonde définitivement en 52, sachant qu'elle est déjà prévue dans les textes qui fondent tout l'ensemble des renseignements américains en 47, le National Security Act, et que 47, 49, 51, 52, il y a plusieurs lois qui se suivent, qui vont en fait, la NSA est la fusion de tout un ensemble d'interceptions de l'Air Force, au départ, américaine, de la Marine, d'éléments qui étaient liés à l'ancêtre de la CIA, OSS, et puis le développement de nouvelles technologies. C'est à peu près au milieu des années 50, la structure existe, elle va se développer, mais elle ne va pas être rendue publique, et la partie britannique de la NSA, ou la contrepartie britannique qui est le GCHQ, c'est pareil, va faire l'objet d'un secret extrêmement fort jusqu'au milieu des années 70, à cause d'un leg de la Seconde Guerre mondiale. Dans la Seconde Guerre mondiale, la capacité de décrypter les communications avait été maintenue secrète face aux Allemands puis aux Japonais. Et donc c'est là où se noue justement un premier lien entre la logique de renseignement et ce choix de garder secrète une technologie comme celle-là. C'est que tant que vos ennemis ignorent la réalité de vos capacités d'interception, vous avez un avantage stratégique indéniable. Parce que vos ennemis ne peuvent pas croire que vous êtes capable de les pénétrer au point où vous êtes capable de les pénétrer. Mmh. Et donc, tant qu'ils ignorent votre capacité d'interception, vous n'êtes pas entravé, beaucoup moins, que si l'ennemi se savait écouter à ce point et donc aller éventuellement réagir pour modifier son comportement. Donc jusqu'aux années 70, en fait, un secret qui a concerné des dizaines de milliers de personnes a été tenu.
C'est énorme.
C'est un cas, d'ailleurs, moi j'arrive toujours pas...
C'est ça, comment ça peut rester secret l'existence d'une sorte d'institution qui concerne des dizaines de milliers de personnes, qui embauche même.
Voilà, il y a des lois qui sont assez contraignantes, le Official Secret Act au Royaume-Uni, des lois de sécurité nationale aux États-Unis. Je crois qu'il y avait une forme d'adhésion de la part de ces personnes et de leur entourage, virage voilà, de fraction de la société autour de cette notion de sécurité nationale qui adhérait à l'idée de garder secret des éléments de sécurité nationale très importants, des cultures politiques qui font qu'il y a une forme de respect de cette idée de secret d'État plus forte, que, enfin, notamment chez les Anglais, que dans d'autres cultures politiques. Et donc, de ce fait, ce secret a pu être gardé, bon, avec aussi des dispositifs de sécurité qui vérifiaient qu'il n'y avait pas de fuite, pas trop d'intrusion, ce qui fait que le KGB devait sans doute connaître assez en détail l'intérieur de la NSA, mais lui-même n'avait pas forcément intérêt à révéler son degré de connaissance de la NSA au grand public mondial, par exemple, pour pouvoir afficher des moyens en face lui permettant de se protéger. Vous voyez, c'est toujours un jeu. Vos ennemis en savent plus que vous, plus sur vous que vos opinions publiques, la plupart du temps. Alors, l'autre aspect qui a protégé la NSA depuis sa reconnaissance officielle dans les années 70, c'est le simple fait que c'était une activité un peu d'arrière-plan. La technologie, c'est très intéressant quand vous montrez des avions U2 ou des satellites. Voilà, les choix qui ont été faits, par exemple, par les Américains correspondaient beaucoup à l'espace, à la puissance aérienne, à la puissance maritime. Des radars, des radomes, des moyens d'interception, des dérivations.
Les radomes, c'est quoi un radome ?
Les radomes, c'est les, vous savez, les petites bulles blanches qui, justement, protègent des radars de telle manière qu'on ne puisse jamais savoir dans quel sens est orientée l'antenne.
Ah, ok. Voilà, ça sert juste à ça.
Voilà, en fait, les trucs blancs sont des systèmes
sont des caches.
Qui cachent tout simplement où est l'orientation, parce que sinon, KGB regarderait l'orientation, ils savent, ah, tiens, ça c'est Eutelsat qu'on est en train de surveiller, etc.
Bon. Ouais, donc c'est moins, disons, sexy, spectaculaire que le renseignement même humain.
Voilà, et puis comment représenter l'informatique, comment représenter des ordinateurs, des hackings, les quelques films qui parlent de piratage, etc., ont toujours des espèces de représentations visuelles allégorique de ce qui se passe dans les ordinateurs, parce qu'au fond, ce qui se passe dans les ordinateurs, c'est des lignes de code et c'est incompréhensible et immontrable. Donc, le côté immontrable de l'activité de renseignement électronique le rendait très difficile à publiciser, ou très difficile pour, par exemple, des journalistes ou des historiens à aller capter. Donc voilà, petit avantage.
Mais pourtant, c'est ce que vous montrez dans votre livre, et pourtant, c'est un objectif stratégique de très longue date des Américains et dans lequel ils excellent. C'est ça qu'on mesurait. Enfin, moi, je ne mesurais pas à quel point les Américains avaient immédiatement, enfin très très tôt, compris l'intérêt qu'il y avait à intercepter les communications. Alors évidemment, ça fait partie des activités de renseignement de tous les pays, mais chez eux, c'était plus fort. Pourquoi c'est plus fort ? Comment ça s'inscrit dans une histoire de renseignement ? Olivier Chopin, et pourquoi est-ce qu'ils sont si devant en termes technologiques ? Est-ce que c'est lié à l'histoire, au fond, aussi de leur histoire technologique et leur rapport à Internet, tout simplement ? Enfin, le fait qu'ils aient été les créateurs.
Alors, Internet, d'ailleurs, arrive très tard dans cette histoire-là, hein, parce que la naissance de la NSA préexiste largement à même l'idée de réseau de communication informatique. Alors, ça s'insère dans une histoire longue et dans une culture politique. C'est ça qui est important. Alors, histoire politique, histoire du renseignement et culture politique. Vraiment, la NSA, je crois, est un des bons moyens de comprendre quelque chose à ce que sont les États-Unis en tant que régime politique, en tant que société. L'idée est que le vainqueur est celui qui a le plus de puissance industrielle, le plus de puissance technique. C'est la guerre de sécession qu'il a leur livre. Le Nord gagne sur le Sud parce que le Nord est industrialisé et est capable d'inventer, par exemple, la boîte de conserve pour nourrir ses troupes quand les sudistes meurent de faim sur le combat. Donc cette idée qu'il faudra toujours chercher une supériorité technologique, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit bombarder Dresde avec des avions conventionnels, lancer une bombe atomique, faire un débarquement avec énormément de moyens, de toute façon, il faudra une supériorité technique, technologique, pour pouvoir l'emporter.
Quelle que soit la technologie.
Quelle que soit la technologie. D'accord. Donc là, on est en train de parler de la version informatique, cybermonde, etc. Mais ça n'est que l'application d'un principe qui est global. Lorsqu'il faut de la puissance maritime, on va faire de la puissance maritime supérieure à toutes les autres. Lorsqu'il faudra être capable d'agir n'importe où sur la planète, on fera du air power, comme ils disent, la puissance aérienne, etc. Donc là, en ce moment, on est dans la phase cyberguerre, cyberattaque de cela. Donc en fait, la Seconde Guerre mondiale, pour eux, est le point de révélation de cela. Et comme il y a eu cette opération, qui est une opération occidentale, au début, il y a des Polonais, des Français qui arrivent en Angleterre avec les machines de codage allemand, Enigma. Et on arrive progressivement à décoder de manière récurrente les modes de communication allemands. C'est une histoire en soi, on pourrait faire une émission entière.
On en a déjà sur la cryptographie, voilà, sur Enigma, cryptographie, Enigma.
Disons qu'au bout d'un moment, les Allemands savent qu'il est possible de craquer telle communication. Ils n'imaginent pas qu'Alan Turing a inventé quelque chose qui n'existe pas encore, qui est l'ordinateur, au fond, qui est capable de réellement transcrire en clair des communications qui sont codées. Donc là, il y a un effort qui est extrêmement lourd qui est fait pendant la guerre. Et si vous êtes capable de capter des communications encodées et que vous êtes capable de les décoder parce que vous avez cette supériorité technologique, alors vous voyez en clair les communications de l'ennemi et l'ennemi ignore que vous le voyez en clair. Donc c'est là où se noue le point de départ de la croyance que la technologie, notamment informatique, va être un élément central de la puissance américaine. C'est dans cette idée que la victoire de la Seconde Guerre mondiale, au fond, tient beaucoup plus à cette capacité de décoder les communications en lien avec la puissance militaire qui a été bien nécessaire pour battre les Allemands, et en lien évidemment à la fin avec l'emploi de l'arme atomique qui a mis un terme un peu à la version asiatique de ce conflit. Mais de toute façon, pour eux, en fait, la cryptologie, les interceptions, c'est la même chose que l'arme atomique. C'est ce qui donne un avantage décisif. Or, si on regarde la suite de l'histoire, en 1949, l'affaire est terminée, puisque les Russes vont eux aussi se doter de l'arme nucléaire au lieu d'accepter une proposition de ne pas développer ces armes et de la mettre sous une espèce d'instance internationale. Par contre, la capacité de décrypter les communications soviétiques, elle, les Américains vont penser que là, il y a une supériorité que même les Russes n'anticipent pas, que personne d'autre sur la planète n'anticipe. Et donc, la prochaine guerre mondiale, si elle doit avoir lieu, quand cette guerre bizarre qui est la guerre froide va dégénérer en guerre mondiale, cette guerre-là pourra être gagnée si on a cette supériorité technologique sur les autres. Donc, ils vont mettre énormément de moyens là-dessus. Et donc, protéger ce secret-là plus que les autres, que vous ayez la CIA, que vous fassiez des coups d'État, que vous essayiez de pénétrer telle ou telle organisation en Europe ou en URSS, tout le monde s'y attend et ça fait partie du jeu du discours de la guerre froide. Ça fait partie de la narration que les journalistes, les intellectuels, les hommes d'État peuvent faire à ce moment-là. Mais cette partie renseignement technologique va être totalement absente de ce débat. On en trouve très peu de traces dans très peu de discours de l'époque.
C'est quoi les premières traces du moment où apparaît aux yeux du monde le fait que les Américains ont une supériorité en matière d'écoute ? Est-ce que c'est échelon ? Est-ce que c'est, j'aurais l'impression que c'est échelon, c'est-à-dire milieu, fin des années 90. Et on s'aperçoit que les Américains sont capables d'écouter les délégués de l'Europe dans les négociations du GATT. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit de tout ça, c'est-à-dire 20 ans après le fait que l'existence de l'ANSS soit rendue publique ?
Le grand public va vraiment, et les hommes politiques des différents pays sur la planète vont vraiment intégrer cette dimension-là, oui, milieu, fin des années 90. Bon, dès le milieu des années 70, une fois qu'on révèle l'existence de ces structures, le problème que représente la capacité d'écouter et de faire des interceptions va devenir quand même un problème politique, parce qu'en Angleterre, il y aura un certain nombre d'affaires d'écoute. À un moment donné, le MI5 s'est mis à écouter le gouvernement britannique. Ouais. Bon, ça fait un peu scandale. Aux États-Unis, il y a l'affaire du Watergate avec Nixon, quand même. C'est des écoutes au départ. Donc,
ouais, mais c'est un peu low-tech.
Voilà, c'est low-tech, et puis on ne comprend pas encore que c'est lié à un dispositif de surveillance planétaire. En fait, la technologie, l'état de ce qu'on découvre avec Echelon dans le milieu fin des années 90 est déjà connu de la presse spécialisée ou de certains journalistes milieu des années 80. Mais ça n'intéresse personne.
Et pourquoi ça n'intéresse personne ?
Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas construit comme un problème politique. On est dans la fin de la guerre froide, on est dans la glasnost, la perestroïka, puis l'abandon de la guerre froide, la première guerre du Golfe. C'est-à-dire qu'en fait, on alimente l'interprétation du monde. On n'a pas besoin de cette variable de l'espionnage, notamment électronique, comme variable d'interprétation du monde. Ce que je crois profondément, c'est qu'on construit certains problèmes comme des problèmes de société ou des enjeux politiques lorsqu'on a besoin de ces problèmes pour penser le monde. Là, en fait, vous sortez de la guerre froide, vous faites la première guerre du Golfe, les Américains se perdent des hélicoptères à Mogadiscio. Voilà, c'est ça qui structure leur perception du monde. C'est milieu des années 90 quand soudainement tout le monde se dit, c'est-à-dire que ce soit en Europe, en France, aux États-Unis, en fait on est en train de sortir d'une forme de guerre politico-militaire comme le fut la guerre froide pour entrer dans des formes de compétition extrême économique. Et là, dans ce contexte-là, les règles pures du marché, la transparence du marché n'existe pas. Être capable de connaître ce que vos adversaires, vos ennemis économiques vont pouvoir donner, là soudainement la capacité d'interception, de traitement de l'information. D'accord. Va
c'est
devenir
la conversion de la guerre à la guerre économique
qui est le contexte global. Voilà, bon, si on se souvient, l'Uruguay-Rand, le GATT s'effondre, on n'a pas encore créé l'Organisation mondiale du commerce, on ne sait pas exactement qui mettre quoi. Au début, commerce équitable, ça veut dire entre égaux, c'est-à-dire entre les Occidentaux, puis ça sera entre le Nord et le Sud, puis ça va changer de sens. Ce qu'on appelle aujourd'hui mondialisation, comme si c'était un fait accompli, ce mot se structure à ce moment-là de l'histoire. Et en fait, c'est vrai que les éléments de la puissance vont être de plus en plus perçus comme la puissance commerciale, la puissance économique, industrielle, aujourd'hui puissance financière, des États ou d'organismes non étatiques. Et dans ce contexte-là, la technologie, soudainement, va devenir une variable d'explication de la puissance, notamment de la domination américaine sur un certain nombre d'autres zones du monde. Ils en savent plus que nous, ils sont plus capables que nous de protéger un certain nombre de secrets ou d'intérêts économiques. Et donc, de ce fait, la technologie va commencer à apparaître comme un vecteur de puissance.
On va continuer notre discussion, Olivier Chopin, pour essayer de comprendre pourquoi les Américains nous espionnent. Mais tout de suite, Thibaut Henton, qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question « Qu'est-ce qu'un droit à l'oubli appliqué changerait au moteur de recherche ?»
Qu'est-ce que l'application d'un droit à l'oubli changerait au moteur de recherche ? Eh bien, pas grand-chose qu'ils ne sachent déjà faire, à savoir ignorer certains sites de leur page de résultats, retirer des contenus qui enfreignent la loi. Dans la rubrique Aide de Google, il y a une page Supprimer du contenu de Google, qui explique les procédures à suivre. Certains cas sont gérés directement par Google, qui concernent des informations privées, comme un numéro de compte bancaire par exemple, des images choquantes ou des contenus pirates. Mais pour tous les autres cas, ceux qui concernent des informations tout à fait légales, mais néanmoins personnelles, eh bien, Google reporte la responsabilité de l'affichage d'un résultat de recherche sur le résultat lui-même, à savoir sur le site qui contient l'information récupérée et indexée par Google. La coopération des administrateurs de sites est très variable, on s'en doute. Mais pour Google, le principe jusque-là était simple. Le moteur n'est pas responsable de ce qui se trouve sur la toile, il se contente de fournir des conseils d'orientation dans la masse des contenus qu'elle contient. Si j'estime, moi, individu singulier, que tel contenu qui me concerne ne devrait pas s'y trouver, c'est d'abord à la source primaire, au site qui héberge ce contenu, que je dois m'adresser. Faut dire que c'est bien commode ce principe, ça frise même l'hypocrisie. Sachant que le visible et l'invisible sur la toile, eh bien, c'est d'abord Google qui le détermine. Autrement dit, la source primaire réelle, de fait, c'est bien souvent Google. Le moteur opère 93% des recherches en Europe, quand même. Je comprends mieux maintenant la décision de la Cour de justice européenne rendue cette semaine, qui a donné raison à la CNIL espagnole contre le moteur de recherche. La Cour, en l'occurrence, a statué en faveur d'un Espagnol qui voulait effacer de la mémoire de Google la trace d'une ancienne dette. Bon, je passe sur le fait que Google aura beau retirer le résultat des 28 Google européens, le résultat s'affichera toujours dans les versions non européennes du moteur. Je passe aussi sur tous les autres problèmes que ça peut poser. Cette chronique, par exemple, qui sera bientôt en ligne et qui évoque la dette de cet Espagnol, sera-t-elle également censurée par Google ? Outre-Atlantique, la décision de la CJUE, une de plus, paraît complètement dingue. Il n'y a qu'à voir le nombre de tribunes parues depuis jeudi dans le Financial Times. Demander à Google de retirer un contenu par ailleurs public, ça revient à faire de Google un producteur de contenu et à le rendre responsable de ses contenus. C'est donc transformer Google en un gigantesque bureau de la censure du web européen. Là-bas, outre-Atlantique, c'est vrai, les principes fondamentaux sont là pour contraindre le gouvernement, jamais les particuliers. Particuliers qui sont ainsi protégés contre la censure par le premier amendement de la Constitution, lequel entre en contradiction avec le droit à l'oubli version européenne, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être combattu depuis des mois à Bruxelles par les lobbies des géants américains du net. Lors du débat des têtes de liste aux européennes jeudi soir, on ne doit pas être nombreux en France à avoir regardé ça, j'entendais encore Guy Verhofstadt aborder la question plus générale de la protection des données personnelles, dont le droit à l'oubli n'est jamais qu'un chapitre. Nul doute qu'à peine le nouveau Parlement et la nouvelle Commission composée, le sujet sera à nouveau sur la table, et notamment la directive de Viviane Reding soutenue par le Parlement fin 2013, mais finalement reportée. D'ici là, Google a promis qu'il allait concevoir, mais pas avant plusieurs semaines, un système qui permette la prise en compte de cette décision de la Cour de justice européenne. Mais que ça ne serait pas simple, et pas seulement à cause de la variété linguistique de l'Union. D'ici quelques semaines, on verra donc ce que change le droit à l'oubli appliqué au plus grand des moteurs de recherche. Une petite icône cliquable à côté de chaque lien pour demander sa suppression, un dispositif intégré à la page de résultats ou une interface spécifique. Ce qui est sûr, c'est que Google, qui devra décider au cas par cas de la légitimité des demandes, n'a pas fini de recruter des juristes.
Merci Thibault, on vous retrouve dans quelques minutes pour votre complément d'enquête. Et on écoute une suggestion d'auditeur, c'est Martin Gamera, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais en tout cas c'est celui qui apparaît sur le compte Twitter, qui nous a envoyé ce lien mercredi via Twitter, donc c'est le morceau s'intitule Écran Total, le groupe c'est Mustang, groupe français formé à Clermont-Ferrand au milieu des années 2000, Écran Total, et aussi le nom du dernier album de Mustang qui est sorti cette année. Merci donc à Martin Gamera. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques où nous essayons aujourd'hui de répondre à la question « Mais pourquoi l'Amérique nous espionne ?» Et nous le faisons avec Olivier Chopin, qui est l'auteur du livre éponyme et chercheur à l'EHESS et à Sciences Po Paris. On finissait la première partie sur la question d'Internet, des nouvelles technologies. Parmi les raisons que vous avancez pour répondre à cette question « Pourquoi l'Amérique nous espionne ?» Il y en a une, c'est la troisième raison, c'est parce que le cybermonde est son terrain de jeu. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que ça nous intéresse ici de prime abord, en premier chef, comment les Américains conçoivent Internet et pourquoi il leur apparaît très logique et très naturel d'exercer sur l'ensemble des communications qui passent par les réseaux numériques une surveillance presque totale, Olivier Chopin ?
C'est une vraie question de savoir si le cybermonde est un espace réel ou pas, au fond. Est-ce qu'il y a un espèce d'espace géostratégique d'Internet ou non ? C'est une question qu'on débat beaucoup entre juristes internationaux, politologues, spécialistes des sciences de l'information, etc. Ce qui est sûr, c'est que si vous regardez l'attitude du commandement militaire américain ou de la diplomatie américaine ou de certaines grandes entreprises américaines, pour eux, oui, clairement, Internet est un nouvel espace. Voilà, il y a un dédoublement de notre espace. Il y a l'espace réel fait de mer, de montagne, de rivières, de côtes,
un espace immatériel,
mais qui en est un et dans lequel les éléments de la puissance, les éléments de la sécurité, l'identification des menaces, les capacités d'entraver des menaces vont se faire sur un mode similaire, nonobstant la technologie, à celui qui est vrai dans le monde entier. Mmh. Et donc, de ce fait, si vous voulez, il y a un lien entre l'idée que ce cybermonde existe et l'idée même de mondialisation telle que les Américains la conçoivent.
En quoi ? Comment ça fait le lien ?
C'est-à-dire que pour eux, la mondialisation, ce qu'ils appellent globalization, est une espèce de prolongement de leur espace politique national. Ils savent faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur, mais le reste du monde est un espace de projection de la puissance, un espace de projection de ses intentions, un espace de réception des intentions des autres. Et donc finalement, ils ont conçu tout de suite Internet, non pas comme un dédoublement de la mondialisation, mais comme un de ses aspects, au fond. L'espace du web est un des éléments de ce qu'on appelle la mondialisation en général. À ce titre, ils se comportent vis-à-vis du cybermonde ou de cet espace exactement comme ils entendent se comporter dans le reste du monde, c'est-à-dire garantir leurs intérêts, promouvoir leur puissance, éventuellement se penser comme puissance responsable dans les endroits où il y a des conflits. On voit bien que les États-Unis se pensent comme une puissance responsable. À certains moments de leur histoire, ils disaient puissance indispensable. Voilà, si nous n'étions pas là, ce serait le chaos à tel endroit de la planète ou à tel autre. Et donc, cette culture politique, géopolitique, a été réinvestie dans l'espace d'Internet. En outre, bon, le HTML est une conception européenne partagée avec les États-Unis, etc. Ils avaient fait des réseaux physiques, nous en faisions d'autres, etc. On a tout connecté. Il est clair que par un effet, je ne sais pas, d'accident historique ou au contraire de nécessité, les grands acteurs qui structurent l'existence même du réseau, de ceux qui produisent les câbles, les serveurs, les ordinateurs, à ceux qui produisent les plateformes dans lesquelles du contenu existe, à ceux qui produisent le contenu, les grands acteurs sont des acteurs américains, pour ce jour, presque sans exception. Donc, il n'y a pas, comme chez nous, il n'y a pas d'Areva ou de Thales aux États-Unis, et il y a toujours plusieurs entreprises en face du gouvernement américain, mais le gouvernement américain estime que les entreprises américaines, qui sont des acteurs du web pour les États-Unis, mais aussi pour le reste du monde, doivent être protégées et doivent être conformes aux intérêts des États-Unis. Donc de ce fait, ça leur pose absolument aucun problème à mettre à disposition de l'ensemble des acteurs du réseau. La NSA ne va jamais favoriser Yahoo contre Google, favoriser Facebook contre Twitter, mais si l'un ou l'autre de ces acteurs-là est menacé par exemple par une puissance étrangère, ça se produit en janvier 2010 avec la Chine qui pénètre des comptes Gmail d'opposants chinois. Le directeur national du renseignement de l'époque dit: nous allons sécuriser les entreprises américaines de telle manière que si jamais quelqu'un refait intrusion dans des entreprises qui structurent le web, nous serons capables soit de contre-réagir, soit de l'interdire à un moment donné. Et du moins, nous allons aider Yahoo et Google à identifier qui a été la personne qui, ou l'État qui a finalement fait du hacking ou des choses comme ça.
Donc hyper-présence de l'État américain sur le web dès lors que ses intérêts sont en jeu, et même quand ça passe par les entreprises privées.
Absolument, puisque de toute façon, ces entreprises, puisqu'elles sont dépositaires aussi du fonctionnement de la société informatique aux États-Unis, ils vont le faire au titre de la protection de leurs propres infrastructures, si vous voulez. Ils ne vont pas défendre Google ou Facebook parce que ce sont des entreprises américaines qui ont une influence sur le reste du monde, mais parce que si jamais quelqu'un les entrave, ça entrave le fonctionnement même de ces entreprises.
Ce qui est bizarre, Olivier Chopin, c'est que ça fait presque, je sais pas, 35 minutes ou 30 minutes qu'on discute, et on n'a pas du tout évoqué la raison qui est la première raison invoquée par les États-Unis quand ils justifient l'existence de ce programme, qui est la lutte contre le terrorisme. Comme si c'était presque secondaire. C'est-à-dire et avec cette espèce de paradoxe quand même, qui est que l'existence d'échelon n'a pas empêché le 11 septembre, et que par ailleurs, tout ce qui a été mis en place par la NSA n'a pas empêché qu'il y ait eu lieu des attentats, notamment l'attentat qui a eu lieu sur le marathon de Boston. Et quand on a demandé, les journalistes du monde entier, les journalistes anglo-saxons prioritairement, ont demandé aux Américains de justifier l'existence de ces programmes par le fait d'avoir empêché, puis empêché des attentats, ils en ont alors avancé un nombre de 50 au début. Et puis quand il s'agit d'en nommer vraiment, donner vraiment des cas, on est tombé à rien. Mmh. Voilà. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe?
Alors, bon. Là, je crois que ça renvoie un peu à votre première question. Pourquoi est-ce que finalement ils n'ont jamais démenti? Pourquoi ils n'ont pas décrédibilisé Snowden? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, au fond, cette invocation? Alors, il y a une invocation de la sécurité nationale, de la lutte antiterroriste, mais très faible, au fond. Bon, je crois que la position du gouvernement actuel, c'est Obama qui est en charge de ce problème, si vous voulez, c'est lui qui est président au moment où Snowden fait ses révélations. Lui, il a en quelque sorte une position très, très ferme sur cette question. Il dit, nous avons mis en place des éléments de contrôle du réseau, de surveillance, qui garantissent l'intégrité de nos infrastructures, du mode de fonctionnement. Si on ferme Internet, il n'y a plus d'États-Unis, tout passe par là, chez eux. La guerre à la terreur, la lutte contre le terrorisme, c'est ce qui a sans doute justifié les abus. C'est-à-dire, le problème de ce que révèle Snowden, c'est qu'il révèle des abus du système. Par exemple, on contrôle la vie de citoyens ou les communications privées de citoyens américains qui sont absolument innocents de toute activité criminelle. La loi américaine, la Constitution interdit cela. Donc il y a eu des abus. Le fait d'écouter des chefs de gouvernement étrangers est sans doute un abus. Donc de ce fait, Obama est en train de nous expliquer que contre quoi il va lutter à partir de maintenant, ce sont les abus de la NSA qui correspondent aux legs de la lutte contre le terrorisme ou de la guerre à la terreur, mais que sur le principe de sécuriser Internet, de sécuriser la structure économique ou militaire des États-Unis, et sur le principe de faire un espionnage global, y compris vers des gouvernements alliés ou amis, ça, ils n'arrêteront jamais. Donc Obama a toujours dit, en fait, limiter les abus liés un peu peut-être aux outrances de la guerre à la terreur, à la lutte contre le terrorisme, oui. Mettre en cause la réalité de notre surveillance, non. Parce que de toute façon, par ailleurs, il ne cesse de le répéter, mais ça n'est pas un discours qui est repris par la sphère médiatique. Avant toute chose, ce dispositif de renseignement a une vocation stratégique et de sécurité nationale, Homeland Security, comme ils disent aujourd'hui, c'est-à-dire de sécuriser la population, le territoire et l'espace américain. Donc la menace terroriste a sans aucun doute permis de donner à la NSA beaucoup plus de moyens que ceux dont elle disposait avant le 11 septembre. Il y a eu une histoire récente sur une décennie des évolutions de cette technologie et du blanc-seing, en quelque sorte du chèque en blanc qu'on a donné à la structure de renseignement américain pour lutter contre l'Al-Qaïda et les menaces terroristes. Ce faisant, ces institutions en ont profité pour développer des capacités d'interception et d'écoute tous azimuts et qui n'ont sans doute plus rien à voir avec la menace terroriste au début, mais qui restent quand même justifiées dans les textes, justifiées dans l'interprétation que le gouvernement fait de ces autorisations au nom du terrorisme.
Mais protéger contre quoi ? En fait, j'ai l'impression qu'il y a, il y a d'un côté une volonté de protection, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'autre côté une sorte, pour le coup, c'est un mot que je prononçais au tout début, qui est une sorte de folie. Je pense à un programme qui a été mis en place en 2002 et retiré en 2003. D'ailleurs, pourquoi, on ne sait pas, il faudrait que vous l'expliquiez, qui s'appelle le Total Information Awareness, dont l'idée est de dire, voilà, on va tout contrôler. C'est intéressant parce que c'est un programme qui est mis en place par la DARPA, la DARPA étant le département de recherche de la marine américaine qui est à l'origine de l'Internet à la fin des années 60. Hein. Alors c'est complètement déconnecté évidemment depuis le début des années 60, mais ce qui est intéressant c'est que c'est le même département de recherche qui va d'un côté créer Internet et qui 30 ans plus tard va mettre en place une espèce de programme délirant. Bon. Pourquoi tout surveiller ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert d'amasser... Enfin, je pose exactement la question que vous posez dans votre livre, mais je la repose. À quoi ça sert d'amonceler des états octets de données dans des serveurs, au fond de l'Utah ? Protéger contre quoi ? C'est-à-dire que, oui, vous dites menaces de l'extérieur, Mais contre quel type de menace, puisque ça ne protège à peine contre des gens qui essayent de mettre des bombes, et on ne se voit pas très bien comment ça protéger non plus contre les Chinois. Enfin, voilà. Excusez-moi, c'est une question très naïve, mais...
Non, elle n'est pas naïve. C'est une question qui se pose dès qu'on commence à regarder la question. C'est une question qui a été posée par pas mal de congressmen ou de journalistes aux États-Unis. La question est sérieuse, mais elle permet, si on veut vraiment y répondre sérieusement, de bien comprendre, pour le coup, ce que j'appelle les logiques du renseignement, qui sont difficiles à comprendre, même quand on sait ce que font les services secrets. L'idée, c'est que le 11 septembre a été une attaque surprise, indépendamment de la qualité de terroriste d'un nouveau genre, etc., de la forme de ces attentats. Le 11 septembre a été une attaque surprise, alors que précisément, le dispositif de renseignement américain a été conçu initialement pour empêcher l'attaque surprise. Lorsque la CIA est créée en 47 et la NSA dans la foulée, en fait, le gouvernement américain, l'armée, la diplomatie veulent quelque chose comme ça, des services de renseignement technologique, de renseignement humain, des espions pour préparer la guerre qui vient. Le Congrès est assez réticent. Le Congrès, en fait, lui, n'a pas autoriser ce dispositif de renseignement pour faire la guerre froide ou gagner la guerre contre les Russes, il a autorisé ce dispositif, le Congrès lui-même, quand il a pris la loi, pour éviter Pearl Harbor. C'est-à-dire que lui, son argument...
Ah, le traumatisme, c'est Pearl Harbor.
Le traumatisme, c'est Pearl Harbor. Parce que la Constitution est très très claire. Les Américains l'avaient un peu oublié lors des deux guerres mondiales, mais après l'affaire Nixon, justement, en 77, ils vont réaffirmer les pouvoirs de guerre. Les pouvoirs de guerre appartiennent au Congrès dans la Constitution des États-Unis. C'est lui qui décide de la guerre ou de la paix. Or, quand vous avez une attaque comme Pearl Harbor ou un 11 septembre, le Congrès n'a plus le choix que de dire oui à tout ce que le gouvernement, l'administration, le président va vouloir faire pour sécuriser le pays. Et donc, en quelque sorte, le Congrès perd son pouvoir de décider de la guerre ou de la paix, qui est un des vrais pouvoirs constitutionnels qui lui revient. La guerre froide et l'histoire récente font que le président et le Congrès partagent maintenant ce pouvoir. Donc, le 11 septembre, c'est un vrai traumatisme pour la communauté politique américaine, puisqu'en quelque sorte, la grande question, c'est on a mis tant de dizaines de milliers de gens d'infrastructures énormes, de centaines de milliards de dollars depuis des décennies dans ce dispositif qui doit nous empêcher l'attaque surprise. Or, elle a lieu. Et donc là, la réaction, le Total Information Awareness, va être une réaction assez typique de la culture technologique et de la culture stratégique américaine. Nous avions des morceaux d'informations, nous n'avons pas été capables de les connecter les unes avec les autres, connecting the dots, comme ils disent. Donc finalement, notre problème, c'était pas d'obtenir du renseignement, nous en avions, c'était pas de l'analyser, nous le faisions, c'était même pas d'interpréter la menace, nous l'avons fait. Le directeur de la CIA va plusieurs fois voir George Bush en lui disant « Attention, il y a une urgence, on sait que des ennemis vont nous frapper, etc. » Mais on n'a pas pu mettre toute l'information ensemble. Donc, réaction assez typique des États-Unis, modèle un peu industriel. Puisqu'on n'a pas pu savoir ce qui était utile à un instant T, nous saurons tout en permanence. D'accord. Voilà, fantasme d'omniscience, un fantasme un petit peu. Là, la technologie va être la possibilité pour nous d'avoir une vision quasiment omnisciente de ce qui se produit.
Et ce programme s'arrête, mais vous considérez que l'idée qui prévalait à ce programme continue et que tout ce qui s'est passé, tout ce que Snowden met en lumière, c'est la continuation intellectuelle et pratique de cette idée de tout contrôler parce qu'il y a un moment quelque chose nous a échappé.
Voilà. Alors, il faut bien s'entendre sur le mot contrôle. Tout surveiller, au moins.
Tout surveiller.
Voilà. Parce que contrôler, ça supposerait qu'on puisse agir sur ce qu'on surveille. Là, c'est plutôt surveiller. Donc, leur idée, c'était effectivement, on va connecter toutes les caméras de surveillance, les détecteurs biométriques, les numéros de passeport. On va tout mettre dans une espèce de métabase de données avec des moteurs intelligents, des robots qui vont eux-mêmes identifier la menace. Et puis, de cette manière, on ne rattrape plus rien. Si on est capable de tout capter, on ne rattrape plus rien.
Je vais vous soumettre pour terminer aux questions de Thibault.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Je ne sais pas que ce soit très important.
Thibault.
Et pourquoi donc ça a été abandonné, ce awareness?
Bon, le Congrès, là, quand même, dans un petit sursaut de constitutionnalisme, se rend compte que là, ce serait quand même vraiment très, très problématique d'avoir cette technologie qui opère. D'autre part, le Congrès, qui a quand même financé des décennies de programmes d'armement, sait reconnaître un programme qui ne marchera pas quand il en voit un. Ils avaient déjà eu le système Star Wars dans les années 80 avec Reagan. Au moment de l'élection de Bush, il y avait un National Missile Defense. On voulait faire des bulles de missiles antimissiles autour des États-Unis pour empêcher des attaques. Et quand même, là, il se rendait bien compte que cette technologie risquait de ne jamais marcher. Donc on allait mettre énormément d'argent sur quelque chose qui ne marchait pas. Et si elle marchait, de poser des problèmes qui menaçaient réellement l'intégrité de la démocratie américaine. Donc le Congrès dit non, finit par clore le système. Et quelques éléments de cette logique, notamment d'interconnexion des fichiers et d'être capable d'aller creuser, digging dans toutes les bases de données qui seraient accumulées et connectées les unes avec les autres, là, sera sans doute continué en secret par la NSA, en secret mais pas à l'insu du Congrès, c'est impossible de développer ça sans que le Congrès le finance. Et donc finalement les révélations de Snowden montrent qu'une partie de ce fantasme, donc ça connecte pas avec toutes les images satellites, tous les senseurs biométriques, toutes les caméras de surveillance, mais il y a quand même cette idée que tous les fichiers dont les États-Unis disposent pourraient être mobilisés par la communauté du renseignement au travers de cette technologie qui devient XKScore à la fin dans les révélations de Snowden.
Ça fait maintenant un an que le feuilleton Snowden dure, on l'a dit. Est-ce qu'on peut penser, vous qui connaissez bien les services secrets en général, est-ce qu'on peut penser que depuis, la NSA a revu toutes ses procédures et que, étant donné que voilà, cette révision des procédures, tout ce qu'on va pouvoir lire dans les prochaines semaines comme informations émanant de Snowden sont à prendre vraiment avec des pincettes?
Alors, c'est peu vraisemblable qu'ils aient pu tout revoir. Bon, ils auront sans doute changé ce qui, d'après eux, risquait de mettre en danger soit la sécurité de leur propre réseau, soit des agents opérationnels. Ce qui est très fascinant depuis janvier-février, c'est qu'au contraire d'avoir un procédé de limitation des capacités, le gouvernement américain annonce une extension de ses capacités sur les questions de surveillance. C'est-à-dire la base de l'Utah Bluffdale dont vous mentionnez l'existence. Donc on connaît cette base depuis plus d'un an et demi grâce aux travaux d'un journaliste de Wired et de James Bamford. Mais là, en fait, cette base a été rendue publique sur le site internet de la NSA, du renseignement américain, du directeur du national du renseignement. Et en fait, il nous explique même qu'ils sont en train de mettre en place un programme de virtualisation d'internet et de connexion, de captation et d'archivage des données, et notamment des métadonnées d'internet, encore plus important que tout ce qui a été révélé par Snowden allait être mis en place. Alors, sauf que cette fois-ci, ils l'annoncent, ils le mettent sur des sites, le site grossit de mois en mois avec des informations, et donc là, on voit que la réaction du gouvernement américain est en fait d'assumer complètement l'idée de surveillance globale, mais de la préciser. C'est-à-dire, justement, nous ne voulons pas contrôler le comportement des individus ni les communications, nous voulons juste les connaître et les savoir.
Thibault, dernière question.
Est-ce que vous pensez que l'Europe devrait accorder l'asile politique à Snowden ?
Alors là, c'est une question vraiment normative. Non, je ne pense pas quand même. Non.
Ah bon ?
L'asile politique.
Vous pensez que c'est un traître à la démocratie, vous aussi, comme Philippe Val ?
Non. Non, non. Aux États-Unis, entre traîtres et héros, si vous voulez, le débat est très marqué. Est-ce qu'on devrait le faire ? Je ne sais pas. Les Européens sont des alliés politiques des États-Unis dans le cadre de l'OTAN. Snowden a été accueilli d'abord par la Chine, puis par la Russie. Ça n'en suffit pas à en faire un ennemi ou un traître en soi. Mais l'idée que le parcours puisse être la Chine, la Russie, l'Europe aurait un sens politique qui serait quand même assez problématique. Or, ça ne vous a pas échappé. L'effet que l'Europe et les États-Unis sont dans le même OTAN face à certaines crises qui peuvent apparaître en Ukraine, en Russie.
Peut-être que Snowden aurait lui-même préféré être accueilli par l'Europe plutôt que devoir se réfugier en Chine en Russie.
Il faut le mettre en Suisse.
Voilà, ça serait pas mal. Merci beaucoup, Olivier Chopin. Vos références sont sur la page de Place de la Toile, une page où vous pouvez aussi télécharger cette émission pendant un an et la réécouter pendant trois la semaine prochaine. Et ben nous ne savons pas encore ce que nous allons faire, mais ce sera samedi à 18h10. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte, stagiaire Colas Zibo à la technique, c'était Théo Gomard, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h sur France Culture. Tout de suite, Elisabeth Chungi pour son magazine de musique sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.